Alors, notre prochain invité est un hypnotiseur. Mais je vous rassure, donc il ne va pas vous endormir, il ne vous fera pas faire la poule. Ce n'est pas du tout l'idée de cette histoire-là. Il va venir raconter sa découverte de l'hypnose, sa relation à l'hypnose et des anecdotes qu'il a pu vivre par le biais de cette discipline. Je vous demande d'applaudir très fort Kevin Finel.
Bonsoir. En effet, oui, on va parler d'hypnose et on vient de parler de l'exploration de l'espace, même si le voyage était immobile. Et il y a un autre espace, moi, qui m'a toujours fasciné depuis que je suis tout petit, c'est l'espace qui se trouve là. Je pense que c'est un continent inexploré et je crois qu'une des grandes avancées de l'humanité va être de un peu mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau et tout ce qui est relié à ça, parce que je pense que notre humanité, elle est beaucoup liée à ce fonctionnement. Pour moi, c'est une histoire qui a commencé très très tôt. J'ai un peu par hasard un jour assisté, quand j'avais 9 ans, à une conférence. Alors, c'était pas de l'hypnose, c'était quelqu'un qu'on pourrait qualifier de thérapeute, qui s'appelle Jacques Salomé, peut-être pour ceux qui connaissent. Et moi, avec mon regard de 9 ans, j'ai vu quelqu'un parler de quelque chose qui me faisait vibrer. Je comprenais sans doute pas du tout ce qu'il disait. Et il faisait une sorte de démonstration, et c'était une sorte de thérapie. Donc une personne n'allait pas très bien, et c'est en tout cas ça que je voyais avec mon regard d'enfant. Et il lui parlait, il se dégageait de lui quelque chose que je trouvais magnifique. Et après, cette personne a commencé à sourire et on avait la sensation qu'elle était transformée. Il y avait une chose un peu magique comme ça qui s'était passée. Et pour moi, ce personnage, je l'ai considéré comme un magicien. Je me suis dit un jour, je veux faire ce qu'il fait. Je pense que là, il y a une vraie magie qui n'est pas une magie avec du trucage. Et malheureusement, les gens parfois, quand ils pensent à l'hypnose, pensent à quelque chose qui serait de l'ordre d'une magie un peu superficielle comme ça. Mais je pense que la magie des émotions, elle est beaucoup plus forte encore que tout ça. Alors il s'est passé des années après, et même si je m'étais toujours passionné pour ces questions-là, j'avais laissé un petit peu de côté, peut-être aussi ça, pour peut-être faire des choses qui semblent plus raisonnables pour un adolescent, et puis me consacrer peut-être à des études un peu plus classiques. Mais ça me revenait toujours, et j'avais la sensation qu'il y avait quand même quelque chose que je voudrais explorer avec ça. Et il y a eu un déclic à un moment donné. Je venais de passer mon bac. Quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais voilà, je veux faire Sciences Po et peut-être l'ENA après. C'était un peu le truc qui me focalisait. Avec le recul, j'ai bien fait sans doute de ne pas faire ça. Et il y a un jour où, après le bac, j'étais accepté dans une bonne classe préparatoire. Mes parents étaient plutôt contents. Et là, ça m'a pris d'un coup. Je les ai regardés. J'aurais dit en fait, j'irai pas. Bah, c'est possible. Maintenant, on sait que c'est possible, mais je n'irai pas. Il y a autre chose que je veux faire. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont juste demandé de m'inscrire à une fac. Je suis allé à la fac de droit parce que c'était la plus proche de chez moi. Je me disais, je ne vais pas perdre beaucoup de temps comme ça. C'est un choix comme un autre. Et j'avais déjà commencé à apprendre un petit peu tout ça, mais je suis allé voir des hypnotiseurs. Pas que, des gens aussi qui faisaient des choses un peu différentes, qui me parlaient. Toutes des personnes qui s'intéressaient à l'esprit, qui s'intéressaient à l'esprit, au fonctionnement humain, à tout ce qui fait qu'on peut explorer finalement l'inconnu à l'intérieur de soi, cet inconscient qui semble assez illimité comme ça. Et puis de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, assez rapidement, je me suis dit que j'allais commencer à tester des choses avec l'hypnose. Et j'ai eu une occasion de rencontrer une personne qui faisait du soutien scolaire et qui m'a dit, bah, dans les gens que j'accompagne, il y a plein de personnes qui sont paralysées par la peur, qui manquent de confiance, peut-être qui ont des problèmes de mémoire et tout ça. Et j'ai commencé à travailler avec eux et ça s'est passé assez bien au début. En plus, on avait le même âge souvent, j'étais même souvent plus jeune qu'eux, donc il y avait une relation qui se passait bien. Et puis, ils ont commencé à m'amener leurs amis, et puis leurs parents, et puis j'ai commencé à avoir comme ça besoin d'avoir un cabinet. J'avais à peine 18 ans quand j'ai ouvert mon premier cabinet, même quelques jours avant mes 18 ans. Et là, c'était le début d'une aventure assez extraordinaire. Je pense que j'étais extrêmement naïf, déjà pour penser qu'on pouvait comme ça solutionner des problématiques personnelles. Les gens venaient me voir pour des choses que je n'avais pas prévues à la base, des problématiques de comportement, de deuil, des choses. Et je ne sais pas comment ils considéraient comme ça un gamin qui devait avoir 18 ans au début. Et j'essayais de me vieillir au début. Je fais des lunettes. Je me disais, si les gens me donnent 20 ans, c'est déjà pas mal. C'était pas très ambitieux, mais ça me paraissait déjà beaucoup, moi, à l'époque. Et j'avais toujours peur que quelqu'un un jour me pose la question en me disant, mais bon, t'as l'air gentil, mais il est où l'hypnotiseur? J'avais un peu le. Je me disais, mince, est-ce qu'un jour ils vont se demander si je suis un imposteur ou quelque chose comme ça? Et ça s'est très très bien passé. Et il y a eu des aventures assez extraordinaires parce que on peut apprendre plein de choses sur l'hypnose. Et vous avez sans doute vu des spectacles où on voit des gens qui font des choses étonnantes. Alors, le problème du spectacle, c'est que c'est souvent un peu gratuit. On se moque des gens sur scène. Moi, ça m'a toujours un petit peu gêné, ça. Mais on peut quand même se poser des questions sur ce qu'est l'esprit humain avec l'hypnose. Si une personne oublie un chiffre, qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur, elle est capable d'oublier un chiffre ou de s'en souvenir? Est-ce qu'on peut agir comme ça sur la mémoire? Si quelqu'un est capable de se faire croire pendant une minute qu'il est quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on peut explorer vraiment si on va au-delà d'un côté un peu spectacle comme ça, dans un vrai temps de travail d'exploration personnelle? Et très vite, j'ai eu envie de démystifier l'hypnose. Alors, j'ai commencé à faire des conférences. J'avais 18-19 ans quand j'ai commencé à faire mes premières conférences. Et pareil, j'étais très naïf. C'est un type un jour qui m'a dit « Tu veux pas faire une conférence ?» Je lui ai dit « Oui ». Et je ne savais pas très bien sur quoi j'allais parler. Je me rappellerai toujours de cette première conférence. Elle était assez étonnante parce que je pense que j'avais un côté comme ça assez improvisé. Et quand je me suis retrouvé devant les personnes qui étaient là, je ne savais pas très bien quoi faire, donc j'aurais fait une démonstration. Je leur ai dit « Voilà, je pense que vous avez une fausse image de l'hypnose. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. » Puis ça a commencé comme ça. Et en même temps, j'ai essayé de montrer justement que c'était un état qui n'était pas démonstratif, mais plutôt introspectif. Et voilà, il y a deux anecdotes que j'avais envie de raconter par rapport à ça. La première, elle est arrivée lors de ma deuxième conférence, parce que je repense beaucoup à cette anecdote, parce qu'elle montre à quel point c'est difficile de parler bien d'hypnose, tellement il y a de clichés dans l'image, dans l'esprit des gens. Et je commençais cette conférence, c'était à Metz, dans l'Est de la France. J'habitais à Nancy, j'étais un peu dans cette région-là. Et il y avait une cinquantaine de personnes, ce qui semblait déjà vraiment énorme à cette époque-là. Et je commence à dire, voilà, l'hypnose, c'est un truc qui est rationnel, c'est un truc qui est logique, c'est du langage, c'est de la linguistique. Il y a un médecin qui me pose une question et puis qui me dit, ben voilà, je suis médecin, et il me dit, moi, je ne crois pas du tout en l'hypnose, elle était beaucoup moins démocratisée que maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont évolué là-dessus. Il me dit, je pense que c'est un truc de charlatanerie, et je pense que c'est même un peu dangereux. Et je regarde, je lui dis, mais non, vous rassurez-vous, si vous voyez quelqu'un rentrer sous hypnose, vous allez voir que c'est un état qu'on connaît tous, que c'est quand on est dans la rêverie, quand on rentre dans un livre, on y est presque déjà. Et au moment où je dis ça, il y a une personne juste à côté de lui qui rentre dans une crise hystérique. Jamais su pourquoi. Elle devait se faire elle-même une image énorme de l'hypnose. J'étais en train d'expliquer que c'était un truc rassurant, que c'était un truc très logique. Et là, il y a une personne qui a les yeux révulsés, qui commence à baver un peu, à avoir des tremblements. Et je vois 50 paires d'yeux qui me regardent en disant « il faut qu'il fasse quelque chose ». Et là, c'est assez bizarre comme moment, parce qu'on se dit, mais je viens de dire que c'était pas ça, et pourquoi cette personne me fait ça? D'où elle vient, cette personne-là? Donc je traverse un peu la salle comme ça, et je vais à côté d'elle, et je lui demande ce qui se passe, et elle me dit, vous m'avez hypnotisé. J'avais rien fait, évidemment, pour cette personne-là. Mais il y avait un truc très hystérique, et donc j'essayais de la ramener, et en même temps, je me dis, il faut pas que je perde les autres autour, donc je parlais aux gens, et je faisais comme si tout était normal, alors que rien n'était normal. Et alors c'est une anecdote comme ça, mais c'est vrai que l'hypnose nous fait tellement fantasmer parfois qu'on va vivre ce qu'on s'attend à vivre. Mais c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme un effet placebo. Je voulais parler de cette anecdote pour dire que finalement, on rentre tous dans notre forme d'hypnose. Il y a des gens qui écoutent de la musique, qui partent dans des voyages incroyables. Il y a des personnes par la danse qui vont atteindre ça. Il y a des personnes qui vont l'atteindre par le cinéma, la littérature, par la création artistique. L'hypnose, c'est juste peut-être l'essence de ça. Qu'est-ce qui change dans notre état de conscience ? Et puis une deuxième anecdote qui est là avec une personne que j'ai accompagnée, qui est justement une de mes premières patientes, justement, c'est une jeune femme, une jeune fille, elle avait peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup appris de mes patients parce qu'à chaque fois, ils m'ont montré des choses que je ne pensais pas être possibles. Et cette personne, elle vient me voir, enfin c'est plutôt ses parents qui me l'amènent, et qui disent, voilà, elle parle à des extraterrestres. Elle venait de la part d'un psychiatre qui m'envoyait un peu ces cas un peu désespérés quelquefois. Une fois, il m'avait appelé en me disant « Vous faites l'exorcisme ?» Non. Et là, il m'a envoyé cette personne. Et donc, je lui dis « Ça veut dire quoi parler des extraterrestres ?» Elle me dit « Regardez, elle soulève son t-shirt. » Et il y avait une forme un peu bizarre dessus. Je dis « C'est quoi ?» Moi, je pense qu'elle s'est grattée, c'était un peu rouge comme ça. Elle lui dit « Non, c'est des extraterrestres qui communiquent avec mon corps. » Je trouve ça bizarre. Alors, les parents s'en vont dans ces cas-là. Et puis, je passe une ou deux séances, j'étais tellement focalisé par ce qu'elle me disait que je me disais, c'est très bizarre ce truc. Elle faisait vraiment apparaître des formes sur son corps, un triangle ou des choses comme ça. C'était très, très, très bizarre. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Je me renseigne entre les séances. Personne ne me dit qu'elle a déjà entendu parler d'un cas comme ça. Cette personne revient. Pendant deux, trois séances, je galère complètement. Je vois les parents désespérés qui me regardent en disant, est-ce qu'il va trouver une solution, l'hypnotiseur? Je leur dis que je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire avec ça. Et je suis un peu. En même temps, je ne le dis pas trop parce que je n'ai pas envie de les désespérer trop. Et je leur dis, voilà, on fait des séances gratuites, c'est intéressant pour moi, c'est un cas que je ne connais pas. Et à la troisième séance, je mets sous hypnose et je demande à ce qu'une forme apparaisse. Et la forme apparaît. Et là, je me dis, tiens, on tient un truc. Et je dis, bah écoute, tu vois, si on y arrive à déclencher ça par hypnose, c'est que c'est pas des extraterrestres, déjà, je pense que ça te rassure. Et on doit pouvoir peut-être aussi l'enlever. Et là, elle sort de l'état d'hypnose, elle me regarde, elle dit non. Je dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous me jurez que vous ne le direz pas à mes parents? Je dis, bah oui. Elle me dit, depuis que j'ai ça, je ne vais plus à l'école. Alors, elle ne le contrôlait pas. Je vais jurer que je ne parlerai pas à ses parents. Mais pendant 2-3 séances de plus, je lui ai appris à le contrôler. En fait, ça arrivait tout seul. Vous savez, un peu comme ces enfants qui disent qu'ils ont mal au ventre pour pas aller à un examen. Bah, elle avait trouvé la parade ultime des extraterrestres, évidemment. Ça met un peu la pression. Et je lui ai appris à le contrôler, ce qui fait qu'à la fin, elle le faisait sur commande. Elle faisait apparaître, disparaître le truc. Et elle me disait, bah, quand je vais chez le médecin, je fais apparaître. Comme ça, il n'y a pas de problème, on ne me demande pas de retourner à l'école. Et du coup, après, moi, je n'ai pas accompagné plus tard, mais je voulais raconter cette anecdote parce que ça fait partie de ces choses qui m'ont assez inspiré en me disant, mais les gens sont capables de choses extraordinaires avec leur cerveau. On n'a jamais appris à servir de notre cerveau. C'est assez anecdotique. Au fond, il y a des choses bien plus encore fortes et belles que ça, et peut-être moins surprenantes, mais plus intéressantes pour nous. Et c'est entre autres un de ces cas-là qui m'a donné envie à un moment donné d'écrire un livre sur l'auto-hypnose pour apprendre aux gens, voir ça comme un manuel pour le cerveau. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui en enseignant l'hypnose. Et voilà, j'ai envie de partager en tout cas cette autre vision de l'hypnose qui est beaucoup plus une approche humaine et de dépassement de soi. Voilà. Merci à tous.